La cadre du service, Madame Bénard, a l'air préoccupée quand elle débarque dans notre bureau. Elle s'assoit lourdement sur le fauteuil et prend le temps d'éponger son front avec un mouchoir en tissu. Nous avons un problème avec l'admission en chambre 33. Farah interrompt le classement des examens biologiques pour l'écouter. Ce patient revient de Thaïlande, il est apparemment fiévreux. Le médecin hygiéniste m'a appelé à l'instant, il faut prendre des précautions particulières. Des cas de grippe H1N1 ont été signalés. Je dois vous montrer l'équipement adéquat avant d'entrer dans la chambre.
L'équipement, répond Farah visiblement intrigué. On ne doit pas mettre une casaque, des gants et un masque comme d'habitude?
Eh bien non, soupire Bénard. Dans ce cas d'isolement, les précautions sont maximales. Les directives ministérielles sont tombées.
Cela ne me rassure pas du tout.
Pourquoi vient-il dans notre service et pas en maladie infectieuse?
Je ne sais pas.
Parce qu'on avait une chambre individuelle disponible? Le professeur Daguin vient d'avoir l'infectiologue au téléphone, il suspecte une méningite associée. Donc, ça relève aussi de la neurologie.
Bénard reste catégorique et ne prête aucunement attention à nos haussements de sourcils et aux regards inquiets échangés entre co-internes solidaires.
Une dernière chose, ajoute-t-elle. Vu le contexte, je pense qu'il faut que vous soyez deux pour réaliser la ponction lombaire. Une pour piquer, l'autre pour recueillir le liquide. Venez.
Pourquoi être deux? Le patient est agité?
Ça veut dire quoi, vu le contexte? Miss Bénard nous a habitués à plus de précision. Quand elle nous ordonne de la suivre, on obéit sans broncher. Il n'y a pas d'alternative. Elle nous tend des charlottes, des lunettes de protection et deux pantalons taille 56 à enfiler par-dessus nos jeans.
Le fou rire me gagne. C'est nerveux.
Le ministère n'exagère pas un peu, là? Après, on va devoir passer dans un sas de décontamination, c'est ça?
Farah ressemble à une spationaute dans cet accoutrement.
Je ne suis pas sûre que Bénard valide les quelques mèches de cheveux qui dépassent de sa charlotte. Je les lui ramène derrière les oreilles.
On va pouvoir lancer une nouvelle mode, me dit-elle en souriant.
Toujours d'un calme olympien, Bénard est maintenant accroupi à nos pieds et s'évertue à nous scotcher des surchaussures avec du sparadrap. Elle ne semble absolument pas se rendre compte du caractère grotesque de la situation. En entrant dans la chambre 33, des flashs nous aveuglent avant même que nous réalisions ce qui nous arrive. Des éclairs et des cris, puis une substance mouillée et gélatineuse qui nous atteint par jet. Un réflexe de survie nous pousse à faire marche arrière et à sortir de cette chambre, mais Bénard fait barrage et bloque l'issue. Il faudrait être 10 pour faire le poids.
Un canular.
Mais oui, bien sûr. C'est le dernier jour de stage, on est vraiment trop naïve.
C'était trop gros pour être vrai.
Toute l'équipe est au complet pour nous arroser et s'en donne à cœur joie. Les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les secrétaires. On ne cherche même plus à se débattre, nos surchaussures glissent de plus en plus et on finit par terre, les quatre fers en l'air. Ce liquide non identifié commence à me rentrer dans les oreilles et à me piquer les yeux.
C'est quoi ce gel?
Du normacol. Glousse Léna, une des meneuses de la bande.
Le lavement pour la constipation?
Oh non, c'est immonde, gémit Farah. C'est le bizutage de fin de stage, les filles. Vous allez nous manquer. Je lui balance ma charlotte gluante à la figure et s'ensuit une bataille de pantalons, surchaussures, casaques et autres objets en tout genre. Bénard passe prudemment la tête dans l'encadrement de la porte et manque de se prendre en pleine face une des dernières giclées de la.
Bon, fait-elle un peu embarrassée, Daguin vient d'appeler.
Il vous attend dans son bureau. Cette gomina improvisée se révèle être un produit hydratant miracle pour cheveux secs, mais impossible à faire partir. Les rinçages répétés, la tête penchée sous le robinet ne servent à rien. On se présente donc, piteuse, devant la porte capitonnée de notre grand chef. Farah prend soin de boutonner ma blouse jusqu'en bas, pour tenter de cacher les taches luisantes qui décorent mon jean. Daguin nous scrute de haut en bas, puis nous fait signe de nous asseoir.
Je voulais vous voir pour vous remettre vos évaluations de fin de stage et vous dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous ces derniers mois. J'ai apprécié votre sérieux et votre motivation lors des visites du mardi matin.
Le rouge me monte aux joues. Je ne m'attendais pas à tant de compliments. Farah regarde ses pieds et paraît émue, elle aussi. Une tache graisseuse s'est formée sur le col de sa blouse. Je me retiens de rire. On a l'air de quoi, toutes les deux?
Farah, vous partez à Quimper, c'est ça?
Oui, dit-elle en se raclant la gorge.
Alors, saluez toute l'équipe de ma part. Vous allez voir, ce stage sera très formateur. Vous pratiquerez une neurologie plus généraliste et donc peut-être plus variée.
Tenez, je n'ai mis que des A. Votre gentillesse et votre calme ont été soulignés par l'équipe.
Merci beaucoup.
Marie-Lou,
merci d'avoir accepté d'aller à l'hôpital de Beauhard au prochain semestre.
Je ne vous ai pas vraiment laissé le choix. Vous savez, un stage en psychiatrie est fortement recommandé dans votre cursus.
En plus, j'ai demandé à mon ami, le professeur Tournos, de poursuivre avec vous le travail que nous avons entamé sur les troubles compulsifs et la maladie de Parkinson.
J'acquiesce en silence. Le laxatif me dégouline dans le cou. Il a été enchanté. Il adore accueillir nos internes de neurologie dans son service.
Méfiez-vous de son enthousiasme. Je ne vois pas vraiment ce qu'il fait rire et commence à regretter mon choix. Enfin, mon choix imposé.
Vous allez voir, la frontière entre les deux spécialités est parfois bien mince.
Vous allez apprendre plein de choses.
Tenez, une colonne de A pour vous aussi.
En me tendant la feuille, il soutient mon regard et me sourit avec bienveillance.
Daguin, malgré ses airs de grand chef, va me manquer.
Chapitre 2. Pistache, cacahuète. Mathieu. Incision, me crie le professeur Simon. Je sursaute et manque de faire tomber le scalpel. Mon chef de service me rend nerveux à gesticuler autour de moi. S'il veut que ce soit moi qui opère aujourd'hui, il va falloir qu'il se calme. Il me l'a d'abord présenté comme une fleur, cette intervention. Comme c'est toi qui as fait l'admission de ce patient, c'est toi qui prends le bistouri. Mais il a vite ajouté « C'est ton dernier jour de stage, j'ai besoin de t'évaluer. » La fleur s'avère hérissée d'épines. Il ne va pas me lâcher. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Ce n'est pas de ma faute si l'anesthésiste a mis plus d'une demi-heure à intuber le patient. Qui aurait cru que M. Gilbert, surfeur émérite taillé comme une armoire à glace, aurait une si petite bouche? Impossible de passer le tube. Je t'assure, Denis, une ouverture de moins de 35 mm, s'est excusé l'anesthésiste. J'ai rarement vu ça pour ce type de gabarit. Le regard noir de Denis Simon l'a dissuadé d'épiloguer. L'intervention doit durer 2 heures maximum, pas une minute de plus. Surtout, pas d'imprévu de dernière minute. Incision, me crie à nouveau le professeur. J'appuie sur mon scalpel avec application, mes doigts tremblent légèrement. Simon peut-il décoller sa tête de la mienne? Il ne va quand même pas rester à souffler dans mon oreille pendant 2 heures. Oui, c'est ça, en rétro-auriculaire. On repousse l'oreille vers l'avant. La voix du professeur devient plus calme et la pression semble diminuer. Tu peux pratiquer le fraisage maintenant, tout doucement. Tu commences par l'exostose postérieure. C'est bien, continue. Je suis ces indications à la lettre, un peu comme si je montais, pièce par pièce, une maquette d'avion. Ne surtout pas oublier une étape, sinon il faut tout reprendre à zéro. Simon est étonnamment patient avec moi. Je n'ai peut-être pas rattrapé le retard, mais j'ai évité les épines. Enfin, j'espère. Très bien. La préservation de la peau est primordiale pour la cicatrisation du conduit auditif. Au moment de refermer, il se déride. Ça vous donne toujours envie de faire du surf en voyant une oreille pareille? Oui, maintenant que je sais comment ça s'évite. Je porte toujours des bouchons d'oreilles, même en été. C'est le sujet de votre thèse, n'est-ce pas? J'opine du chef. Il a l'air très au courant. Faut-il lui rappeler qu'il est le président du jury? Monsieur Gilbert fait partie des surfeurs que j'ai interrogés. J'ai fini par le plus atteint. Une obstruction à plus de 80%, c'est rare. Simon enlève sa casaque et me regarde suturé. Je compte sur vous pour venir de temps en temps dans le service au prochain semestre. Vous allez où déjà?
En neurochirurgie.
Avec Mercier? Parfait, mais n'espérez pas avoir le jour pendant 6 mois. Quelle réputation! J'ai bien peur qu'il ait raison. Comme tous les vendredis soirs, c'est l'effervescence au gobe-mouche, et Josic, dit Jo, fidèle à ses habitudes, est assis à gauche du comptoir. Il écoute patiemment et sourit aux tirades de la tenancière. Lui ne raconte jamais rien sur lui. Comment ce grand taiseux, alcoolique, au look improbable, est-il devenu mon meilleur ami? Difficile de l'expliquer. Je l'ai croisé pour la première fois il y a 2 ans, quelques étages plus haut, au bras de ma grand-mère. Tous les matins, il venait la chercher et l'aidait à descendre les escaliers. La petite table au fond à gauche du gobe-mouche lui était réservée. Elle y passait ses journées, bien calée entre ses 2 accoudoirs en skye. Combien de fois l'a-t-il ramené?